France Culture. Question du soir. Marguerite Caton.
Bonjour et bienvenue dans Question du soir, votre émission de dialogue et de débat en direct tous les jours jusqu'à 19h. Une question aujourd'hui, peut-on sortir de l'ère du plastique ? Ce matin, s'est ouvert à Genève, sous l'égide de l'ONU, un nouveau cycle de négociations en vue d'arriver à un traité contraignant contre la pollution plastique. Cela fait 2 ans que la communauté internationale planche sur le sujet, mais jusqu'à présent, les différents pays n'ont pas réussi à s'accorder et le dernier sommet, qui s'est tenu en Corée au mois de décembre 2024, s'est soldé par un échec. Une session de rattrapage a donc été organisée, elle devrait se conclure le 14 août. Mais il faut dire que la question n'est pas simple. En un siècle, le plastique est devenu l'emblème de notre civilisation. Aucun secteur ne s'en passe et chacun peut reconnaître dans sa vie quotidienne qu'elle serait bien plus compliquée sans plastique. Mais nul ne peut nier ses effets sur la santé humaine et environnementale. Alors, peut-on sortir de cette contradiction ? Nous allons au moins essayer en compagnie de nos 3 invités. Joseph Taillefé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du syndicat européen Plastalliance et l'auteur de Plastic Bashing, l'intox, C'est paru aux éditions du Cherche Midi en 2023. À distance, dans les studios d'ici Brézizel à Quimper, que je remercie chaleureusement, Michaela Lemeur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, chargée de recherche à l'Université Libre de Bruxelles. Vous avez fait paraître en 2021 aux éditions Premier Parallèle le mythe du recyclage. Et enfin, Dorothée Moisan, bonjour.
Bonjour.
Journaliste indépendante, spécialiste des questions environnementales, vous avez enquêté sur la pollution plastique dans un livre intitulé « Les plastiqueurs » publié aux éditions Kero en 2021. Merci de vous être connecté avec le logiciel Reporty dont on attend les meilleures performances. Merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation.
Chers collègues, nous sommes à Genève, armés d'une vision commune. Pour la première fois dans son histoire, le monde est sur le point d'atteindre un instrument juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique. Nous sommes face à une crise mondiale. L'urgence est réelle, les preuves sont claires et la responsabilité nous incombe.
Nous aimerions parvenir à un accord sur la pollution plastique au cours de cette réunion. Un accord équilibré qui contienne des responsabilités et des rôles partagés. Nous devons mettre de côté nos divergences pour parvenir à un consensus. Les principes importants tels que l'utilisation souveraine des ressources naturelles de tous les pays, la responsabilité différenciée entre pays développés et pays en développement sont autant d'éléments clés, gages de succès.
Je représente la Société des ingénieurs du plastique. En tant qu'ingénieurs, innovateurs, nous sommes bien placés pour mettre au point les nouveaux produits qui permettront de garantir une meilleure efficacité en termes de ressources. Nous pensons que l'innovation doit aller de pair avec la responsabilité. Notre travail s'appuie sur la circularité, les produits plastiques, qui sont conçus en tenant compte de l'ensemble du cycle de vie, avec une collecte, un tri, et un recyclage solide.
Vous venez d'entendre un montage réalisé à partir des différentes prises de parole qui se sont succédées à la tribune de l'ONU ce matin. On a entendu d'abord l'équatorien Luis Vallas Valdivieso qui préside le comité intergouvernemental de négociation, le représentant de l'Irak, pays pétrolier très soucieux de poursuivre l'exploitation fossile, et puis un représentant de l'association des ingénieurs du plastique dont le mantra est innovation et recyclage. Commençons par un premier tour de table afin de comprendre les effets, les attentes qui pèsent les attentes qui pèsent sur ce sommet. Joseph Taillefé, vous qui êtes notre représentant de l'industrie plastique, qu'attendez-vous de ce sommet ? Que craignez-vous ?
Alors, je ne crains rien, mais par contre, j'attends effectivement qu'un traité effectivement ambitieux soit signé. Dans mon livre que vous avez cité, il y a une partie qui s'appelle « Problème mondial, solution mondiale ». Et aujourd'hui, pour pouvoir traiter le problème de la pollution plastique, ce n'est pas, on va dire, des pays pris isolément qui peuvent s'y attacher. Il faut, on va dire, se mettre d'accord sur, on va dire, des idées et sur, on va dire, des actions très concrètes. Et en l'occurrence, moi, quand je regarde le mandat, on va dire, de l'Union européenne pour agir, et c'est le mandat que nous soutenons, c'est profitable à notre sens pour l'écologie, parce qu'au niveau européen, on a quand même les normes les plus poussées au niveau mondial concernant les substances, concernant le recyclage, concernant, on va dire, les exigences vis-à-vis des industriels, et également sur le fait d'avoir supprimé des produits plastiques problématiques, les fameuses pailles, touillettes, etc. Et en fait, l'Union européenne, ce qu'elle propose, c'est que ces interdictions que l'Europe a mis en place pour certains produits qu'on retrouvait souvent sur les plages, soient généralisées dans les autres pays. Mais de l'autre côté, vous avez effectivement parfois des intérêts divergents qui, effectivement, peuvent ne pas être en accord avec ces positions.
Donc, vous attendez que les normes qui pèsent sur les industriels européens ou les normes qui encadrent la production européenne soient étendues au reste du monde. Je veux dire comme ça.
En tous les cas, qu'il n'y ait pas plus de normes sur les industriels européens.
Dorothée Moisan, à votre tour, quelles sont vos attentes, vos craintes vis-à-vis de ce sommet qui débute ?
Les craintes, c'est effectivement le poids des lobbies qui sont très nombreux lors de ces négociations. J'avais vu un de mes confrères qui avait utilisé cette comparaison de fait qu'au finalement on invitait le renard dans le poulailler, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de négocier un traité pour réduire, en tout cas pour limiter l'impact du plastique sur les écosystèmes et sur la santé humaine, et que c'est compliqué de le faire avec les producteurs de plastique qui, bien sûr, ne souhaitent pas réduire la production de plastique. Moi, ce que j'en attends, c'est tout simplement un plafonnement de la production de plastique, voire des objectifs de réduction, qui me semblent essentiels, puisque pour moi qui ai travaillé assez longtemps sur ces questions de plastique, vous savez qu'en tant que journaliste, on utilise souvent ces termes de comparaison en terrain de foot, en éléphant, en piscine olympique, enfin bref, vous voyez. En termes de plastique, il n'y a plus aucune comparaison qui fonctionne en fait. On est sur des chiffres, mais phénoménaux. Et moi, celui que j'avais calculé quand je faisais mon bouquin, c'était aujourd'hui la production de plastique vierge. C'est le poids de la population humaine. Voilà, pour vous donner une petite idée. La quantité de plastique vierge produite chaque année dans le monde, autour de 450 millions de tonnes, c'est le poids de la population humaine. Voilà, donc il y a un moment, il faut se dire qu'il faut réduire. C'est le point, à mon sens, essentiel.
Vous avez parlé du poids des lobbies. Je crois que pour cette session, les associations de défense environnementale ont aussi accès au groupe de travail et que ça, c'est une nouveauté. Je ne sais pas si vous avez pu suivre ça, Dorothée Moisan.
Alors, ce matin, je n'ai pas pu suivre ça parce que j'étais effectivement moi aussi en Bretagne, mais sur une autre préoccupation. Mais je trouve ça problématique. Je trouve que c'est extrêmement problématique. On veut ouvrir à tous, sauf qu'il n'est pas possible qu'en dépit de ce que disait M. Taillefer, effectivement, il y a des intérêts contradictoires sur un sommet pour réguler la production de plastique et les impacts sur la santé humaine. À mon sens, il est impossible d'avoir à la table des négociations la plasturgie, la pétrochimie, etc. Comme quand c'est le cas pour les sommets sur le climat, d'inviter les pays producteurs d'énergie fossile. Enfin, ils sont présents aussi à la négociation, mais c'est évident que c'est un frein énorme à toute solution. Et c'est pour ça aujourd'hui que les négociations s'enferment, puisque les négociateurs s'étaient donné 2 ans pour arriver à un traité. Et donc finalement, quand on est arrivé à un constat d'échec il y a 6 mois, on s'est dit, on se donne une nouvelle chance et cette fois-ci, on va y arriver. Mais c'est encore plus compliqué avec le poids des lobbies. Mais je fais confiance aux pays très engagés, que ce soit de l'Union européenne. La France s'est assez marquée, engagée sur ce point. Des fois, elle a eu des positions un petit peu évolutives. Et l'Afrique, extrêmement préoccupée, l'Amérique latine. Donc je pense qu'on a énormément de pays aujourd'hui qui sont prêts, qui veulent prendre des décisions aujourd'hui de réduction. Et on verra ce que ça donne. Mais au pire, si on n'emmène pas tous les États aujourd'hui, on peut peut-être emmener une certaine partie des États avec des propositions contraignantes. Tant pis si les États-Unis, l'Arabie saoudite ne suivent pas. Déjà, on donnera un élan. En tout cas, aujourd'hui, il faut agir.
Michaela Lemeur, qu'en pensez-vous ? Quel est votre regard sur ces négociations internationales ? Et est-ce que vous pensez que les scientifiques sont assez entendus lors de ces discussions ?
Alors, vous me posez la bonne question parce que j'allais réagir sur les extraits sonores que vous avez donnés tout à l'heure et je me disais que la parole absente, c'était la parole de la science, qui est globalement consensuelle sur la question de la pollution plastique, de la présence des plastiques, comme vous le disiez, à toutes les échelles et dans tous les compartiments terrestres, atmosphère, biosphère, hydrosphère, etc. Et à l'échelle macro, à l'échelle micro, à l'échelle nano, il faut aussi dire que les plastiques sont présents dans nos corps, on l'a entendu ces jours-ci, et je le répète, mais on trouve des microplastiques et des nanoplastiques dans le placenta, dans le lait maternel, et la science commence à donner des éléments d'analyse de ce que ces plastiques produisent, mais ce qui est consensuel, c'est qu'ils sont là, absolument partout, et en fait, ça devrait déjà être très très inquiétant. et cette présence qui est en fait une bombe à retardement dont on voit déjà certains effets, mais dont on ne sait pas exactement ce qu'elle va produire par la suite, puisque ces plastiques ont la vertu d'être durables aussi dans les organismes, dans les corps, dans les écosystèmes. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut marteler. Et que dans ce traité, on entend, dans les négociations, on entend finalement pas toujours autant que la question qui était soulevée par ce lobbyiste dont vous parlez tout à l'heure, qui était présent aux négociations, qui parlait de nouveaux produits, d'innovation et de circularité, qui pour moi sont absolument pas les réponses aux enjeux, car les réponses, pour moi, elles se situent essentiellement dans la réduction de la production plastique, pour prendre un peu la mesure de cette invasion des plastiques dans nos vies au sens global, mondialisé et microscopique, intime, et qui est effectivement très 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 inquiétant.
On comprend, à vous entendre tous les trois, une première fracture entre les tenants de la réduction de la production et puis ceux de qui parierait plutôt sur l'innovation et le recyclage. Mais avant d'aborder cette question, je voudrais qu'on reste un peu au niveau des négociations internationales et puis la fracture géopolitique. Il y en a une que l'on observe quand même et qui explique en partie les échecs des négociations précédentes. C'est celle qui suit le pétrole. Les États qui ont bloqué l'accord à Busan, Dorothée Moisan, n'étaient-ce pas les États pétroliers ?
Puisque le pétrole et le plastique sont intimement liés, hein, c'est le plastique, on l'oublie peut-être trop souvent, mais c'est les énergies fossiles. En fait, le plastique, c'est le seul produit qui est à la fois produit à l'aide des énergies fossiles, puisqu'il faut quand même monter en température extrêmement élevée pour produire du plastique, et qui est fait à partir des énergies fossiles. Donc on a double énergie fossile dans le plastique, finalement. Le plastique, aujourd'hui, c'est... alors les chiffres sont pas... Il n'y a pas des chiffres très arrêtés, mais on est à peu près sur un peu plus de 70% du plastique qui est fabriqué à partir du pétrole. On a à peu près 25%, c'est des chiffres un peu à la louche, hein, 25% à partir du gaz naturel. Et puis 5% à peu près, on peut être un peu moins, mais la Chine quand même utilise pas mal de charbon pour son pétrole. Pour son plastique, elle a du charbon. Bah pourquoi s'en passer ? Et donc le plastique est fait à 99% aujourd'hui à partir d'énergies fossiles. On parle après de plastique biosourcé à partir d'abillons de maïs, etc. Donc ça c'est une toute petite fraction aujourd'hui. Et c'est pas systématiquement la solution. Je vais pas étaler mes temps maintenant, mais c'est pas du tout une solution. Et donc, en fait, fatalement, les pays qui ont des ressources en énergie fossile, pétrole principalement, mais pas que, États-Unis, il y a beaucoup de plastique fait à partir de gaz de schiste. Ce fameux gaz de schiste, il est aussi importé par des entreprises comme Ineos, britanniques, en Europe, pour faire du plastique en Belgique. Hein, on a un hub pétrochimique assez fantastique aussi en Europe. Et donc, fatalement, on peut se douter que le secteur de la pétrochimie qui va voir ses revenus, qui se prépare à une réduction de ses revenus en investissement sur la production de pétrole, notamment pour la combustion des automobiles partout dans le monde, puisqu'on sait qu'on essaie de réduire les automobiles thermiques. Et donc, on va réduire la consommation de pétrole. Il faut bien trouver un nouveau débouché. Et la planche de salut, c'est le plastique. Il y a un exemple qui m'avait aussi pas mal marqué, c'était qu'aujourd'hui, un baril de pétrole, quand on prend un baril de pétrole, il y a à peu près en volume 10% de ce baril de pétrole qui va donner du plastique. Il y a aujourd'hui déjà dans certaines raffineries, on est à 40% du baril de pétrole qui donne du plastique, notamment à Singapour. Et on a des recherches en cours qui sont en train d'évoluer pour arriver à un taux de 80%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plastique, c'est l'avenir, peut-être pas du pétrole, mais en tout cas des pétrochimistes.
Vous voulez dire que c'est un peu l'assurance-vie alors que les transports sont en voie de décarbonation des pétroliers. Joseph Taillefer, qu'est-ce que vous en pensez ? Dans quelle mesure l'industrie plastique dépend de celle du pétrole et dans quelle mesure les pétroliers ont intérêt à tenir le plastique ?
Alors, j'ai écouté les éléments donnés par Madame Moisan. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, à vrai dire, avec ces positions. Si vous prenez le verre est bien plus fossile que le plastique. Le verre, pour le fabriquer, pour le recycler, il faut le fondre. Pour le fondre, il faut du gaz. Le gaz, aujourd'hui, c'est fossile. Le plastique, aujourd'hui, vous avez effectivement du plastique qui est issu de la distillation du pétrole par du naphta, mais c'est le naphta est une forme de déchet, d'une certaine manière, du pétrole. Et aujourd'hui, quand on extrait du pétrole, on ne l'extrait pas principalement pour faire du plastique. On fait également d'autres choses également avec le pétrole. Et au final, ce naphta qui est présent, il est utilisé. Vous avez aujourd'hui des pays, je cite la Slovaquie, 60% de recyclage de ces emballages plastiques. Vous avez l'Allemagne qui est à 50%. Quand vous mettez du recyclé, vous dépendez moins aujourd'hui du pétrole. Et en l'occurrence, aujourd'hui, ce traité, et c'est là, en fin de compte, qu'il y a quelque chose d'important. Je ne dis pas que c'est la seule solution. Je ne dis pas que le recyclage est la seule solution au problème. Mais ce sera quand même un élément extrêmement important pour dépendre moins, justement, de l'énergie fossile. Parce qu'au,
mais pour l'instant
bah pour l'instant, en tous les cas, en Europe, on est à 41% taux moyen. Par contre, au niveau mondial,
la
on est à
9%. La question du recyclage, on va y venir, elle est assez compliquée. Les chiffres ne sont pas clairs. Nathalie Gontard, qui est une bonne spécialiste, vous savez qui c'est, elle est à l'INRAE, directrice de recherche, a fait une interview ce matin dans le Figaro. Elle, elle dit on arrive à peine à 1% de recyclage complet.
Je ne suis pas d'accord avec ces chiffres.
Mais ça dépend de ce qu'on met derrière recyclage, décyclage, recyclage, on en parlera. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand on fabrique du plastique synthétique, moi j'ai lu qu'il est à 90% fabriqué à base de pétrole ou de gaz fossile. Est-ce que vous me confirmez ça en termes de processus de fabrication?
Tout dépend en fait le type de produit. Si vous, il y a des produits qui sont 100% à base de pétrole. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez un intérieur de véhicule, vous avez quand même du plastique partout. D'ailleurs, l'électrification des véhicules avec l'alourdissement des batteries entraîne que vous allez mettre encore plus de plastique dans une voiture. Vous pouvez avoir du plastique recyclé dans une voiture. La réglementation européenne va entraîner d'avoir 25% de plastique recyclé dans les véhicules. Et vous avez parfois des produits qui sont à 100% recyclés, voire effectivement avec des produits biosourcés. Il est vrai, je suis d'accord avec vous là-dessus, que si on prend l'échelle globale, la majorité, effectivement, aujourd'hui du plastique produit est encore à base de matière vierge. Mais encore une fois, il faut regarder ce que l'Europe a fait. L'Europe va encourage fortement le recyclage et l'incorporation de recyclés, chose qui n'est pas encore le cas dans les autres régions du monde.
Michaël Allemeur, vous vouliez réagir. Vous observez, vous aussi, un continuum des hydrocarbures au plastique. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat ?
Ah oui, moi je pense que c'est très très important de raccrocher les matières plastiques de synthèse aux hydrocarbures de par leur histoire. L'histoire de la pétrochimie, c'est vraiment des matières, comme le disait Monsieur Taillefet, sont issues de résidus du raffinage des hydrocarbures. Et donc, finalement, c'est un débouché d'un déchet industriel qui nous a permis de développer des matières plastiques et de développer les marchés des matières plastiques. Et donc, c'est déjà une histoire de récupération de matières résiduelles. Parce que c'est un problème, effectivement, au départ, à chaque fois qu'on raffine quelque chose, on a énormément de matières à écouler. Et les industriels sont extrêmement malins pour réinventer des nouvelles matières. Mais parfois, la dangerosité a été aussi sous-estimée de ces matières pourtant connues. Par exemple, le PVC, qui est donc une matière plastique de synthèse qui a été élaborée dans les années 1930, au départ servait à se débarrasser du chlore, qui était un résidu de la production de la soude caustique, par exemple. Et donc, on a des matières qui étaient dangereuses et qui ont été aussi réinjectées dans des biens de consommation ordinaires et qui ont produit une espèce d'exposition comme ça, dans les ménages, dans l'intimité domestique, à des matières qui étaient dangereuses et qui ont été accompagnées d'un discours de non-dangerosité. Ça, je pense que c'est très, très important. C'est que ces matières plastiques ont toujours été accompagnées d'un discours, notamment marketing, au départ de solidité, parce que la bakélite, il fallait la vendre pour dire c'est vraiment très très solide cette matière. Et puis finalement, pour imposer le jetable, il a fallu accompagner un autre discours sur ces matières pour dire finalement, n'hésitez pas à jeter ces plastiques de manière légère et déculpabilisante. Ces plastiques jetables qui sont plutôt arrivés, eux, dans les années 1950, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en fait, on a toujours un discours sur ces matières. Et là, ce qui est intéressant en ce moment, ce qui se joue, c'est que le discours de la dangerosité, le discours de la toxicité, il arrive, finalement. Et c'est celui que porte la communauté scientifique de manière consensuelle, comme je le disais. Mais on peut pas oublier que finalement, cette dangerosité, elle était là depuis l'origine. Et les matières plastiques ont été aussi imposées par des manières marketing de les vendre. Au départ, les banylons fondaient sur la peau des dames. Et elles étaient pas du tout contentes de porter des banylons dans les années 30. Il a fallu, à grand renfort d'innovation technologique, essayer de leur faire à aimer ces produits qui remplaçaient d'autres fibres plus agréables, etc., peut-être plus rares. Mais donc, il y a toute cette histoire de la substitution. Et ce pétrole, ce raffinage des hydrocarbures, il pose problème maintenant parce que même si on a des pays comme la France qui disent vouloir un accord ambitieux, on a des multinationales, notamment françaises, comme Total, qui travaillent avec l'Arabie Saoudite à construire la plus grande plateforme pétrochimique et plasturgique mondiale et qui n'est absolument pas en train de se poser la question de la réduction de la production, qui est en fait la seule question qui devrait être mise sur la table de nos jours.
Donc on comprend qu'on a du plastique qui est finalement un sous-produit de l'industrie pétrolière, même si de nouvelles dynamiques émergent en Europe, on y reviendra. La seconde fracture, elle n'est pas du côté des hydrocarbures, elle est du côté du recyclage. C'est là le deuxième point d'achoppement historique de ces négociations. On a commencé à en dire un mot. Soit on dit qu'on lutte contre la pollution plastique et on investit, on met tout dans la collecte, le tri, le recyclage. Soit on pense qu'il faut lutter contre le mal à la racine et s'engager dans la diminution de la production de plastique. Michaela Lemeur, c'est vraiment comme ça que se dessine la ligne de partage entre aujourd'hui dans les négociations et intellectuellement dans l'histoire ?
Autour du recyclage, vous voulez dire ?
Oui.
Alors c'est vrai que moi, le recyclage, c'est vraiment cet aspect qui m'a semblé intéressant et qui est de plus en plus développé, qui est cette idée qui a été développée d'ailleurs en tout début d'émission avec cette intervention de ce négociateur issu de l'industrie, qui est l'idée de la circularité. Et l'idée de la circularité... Je pense que c'est moi j'ai parlé du recyclage comme d'un mythe parce que c'est vraiment une histoire qu'on se raconte, une histoire matérielle qu'on se raconte de notre capacité à réintroduire dans des circuits productifs en permanence des matières qui auraient été déchues. Et c'est aussi ce que l'industrie a essayé de défendre parce que on a l'idée avec la chimie et la fameuse maxime attribuée à Lavoisier de dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et l'idée aussi que dans les processus industriels, on est allé chercher des résidus, on est allé chercher des surplus pour inventer des nouvelles matières. Il y a cette idée de circularité. Sauf qu'en fait, cette circularité, elle n'est pas, dès qu'on l'a très très concrètement le cycle de vie des choses, il n'y a pas de réelle circularité. Il y a toujours des pertes, il y a toujours des dégradations et il y a toujours besoin d'aller chercher un peu plus de matière vierge pour améliorer les produits. Prenons par exemple la bouteille en polyéthylène téréphtalate, la bouteille en PET.
La PET, oui.
Voilà, c'est ça. La bouteille d'eau, celle qui accompagne aussi, au passage, la privatisation et la marchandisation d'une ressource qui est celle de l'eau.
On dit en tout cas que c'est celle qui se recycle, que c'est finalement le seul plastique qu'on arrive à recycler.
Vrai, absolument, et c'est la filière de recyclage la plus développée, la plus historique, etc. Mais cette bouteille en plastique... Si vous la recyclez, vous allez de toute façon la recycler dans des produits qui seront de plus en plus dégradés dans la chaîne des matières plastiques. Par exemple, il y a très peu de bouteilles qui incorporent du PET recyclé. Le PET recyclé, c'est souvent un PET qui va devenir un produit textile, voire des chaussures, les chaussures en plastique recyclé dont on nous parle beaucoup. Et imaginez un petit peu cette idée de la dégradation en prenant cette métaphore du corps. Au départ, on a de l'eau avec une bouteille qu'on incorpore à travers notre bouche. Et donc, il y a un contact alimentaire. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de réglementations par des agences nationales, internationales sur les plastiques à usage alimentaire. Cette bouteille, elle va devenir un tissu qu'on va pouvoir mettre sur notre corps mais qui ne sera pas incorporé, puis progressivement va descendre dans l'échelle des valeurs et arriver sur nos pieds qui vont toucher le sol et qui vont nous protéger du rapport au sol. Ce recyclage, en fait, c'est une forme de dégradation contre laquelle on essaye de lutter, mais qui finalement est un peu une espèce de travail de Sisyphe. On peut jamais recycler parfaitement et on pourra pas, avec un produit, arriver à avoir exactement le même produit par magie. Il faut essayer d'analyser en détail ces cycles matériels et à toutes les échelles, tous les niveaux de la chaîne, on se retrouve avec des endroits d'achoppement qui viennent un peu remettre en cause, moi, ce que j'ai appelé ce mythe du recyclage, ce mythe de la circularité et dont l'autre déclinaison, c'est l'idée de l'économie circulaire qui, en fait, est aussi un credo. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts, mais en fait, ça ne remet pas en cause la production de plastique qui est problématique dès la source et que les plastiques peut-être devraient être associés à des marchés très très spécifiques de matières intéressantes pour des propriétés sur des objets de niche mais pas pour des objets de consommation ordinaire et massive comme des bouteilles, comme des emballages, parce que les emballages c'est quand même 40% de la production mondiale de plastique.
Joseph Taïefé, pardon, excusez-moi, je voulais pas vous interrompre, on est tous à distance, c'est pas facile, Michaela Lemeur, mais je voulais faire réagir Joseph Taïefé. Est-ce que vous nous expliquez qu'en fait on a une dégradation perpétuelle mondial du plastique, le recyclage est un mythe. Est-ce que Joseph Taillefer, vous êtes en mesure d'essayer de nous convaincre que c'est une solution envisageable à court ou moyen terme, alors qu'aujourd'hui, c'est même pas 1% des plastiques?
Ce n'est pas moi qui dois vous convaincre, ce sont les faits, parce que quand on nous parle de recyclage imparfait du plastique ou de faux recyclage, mais le papier carton alimentaire, vous croyez qu'il devient du papier carton alimentaire, il devient du papier toilette. Les canettes d'aluminium que vous utilisez, ça finira pas en canettes d'aluminium, ça finira en carter de voiture.
On retrouve pas de morceaux de papier toilette dans nos organismes, c'est quand même ça le sujet. Sur le plastique lui-même.
Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, on nous dit le recyclage est un mythe, ça marche pas ou ça ne pourra pas marcher. On n'aura pas le choix.
Depuis combien de temps on essaye? Industriellement.
Alors, il y a plusieurs choses. Sur ce point d'ailleurs, Madame Moisan d'ailleurs en avait parlé également dans son livre. Il y a eu une période de grands mensonges, notamment de l'industrie chimique américaine. C'est-à-dire que le recyclage, pendant longtemps, a été présenté comme étant, on va dire, vert. On va recycler, ça va nous permettre de gagner du temps. En fait, ils n'avaient jamais eu l'intention de vraiment recycler. C'est vrai au niveau américain, qui s'est documenté. L'industrie a énormément menti pendant des années. Sauf que maintenant, depuis à peu près une dizaine d'années, il y a vraiment une prise de conscience qui est là, c'est-à-dire qu'en fait on se rend compte, et notamment au niveau européen, que la solution à la pollution plastique ne passe pas que par le recyclage ou par que la réduction, ça passe par un ensemble d'éléments. Et en l'occurrence, aujourd'hui, la réglementation européenne va obliger dès 2030, c'est-à-dire que si on n'y arrive pas, il n'y a pas de produit sur le marché, d'incorporer un certain pourcentage de plastique.
C'est quel pourcentage? Parce que sur le pot de yaourt, on a beaucoup glosé et on dit on met 1% d'un PET de PET pas très bien recyclé et on dit ça y est, miracle, on a le droit d'être sur le marché. Est-ce que les seuils sont un peu exigeants?
Alors les seuils sont exigeants et ils sont adaptés aussi en fonction des produits, parce qu'en fait aujourd'hui, comme vous l'avez dit, aujourd'hui le PET est celui qui est le plus facile, on va dire, à avoir de l'incorporation en contact alimentaire. On peut faire de l'incorporation non contact alimentaire aujourd'hui sur d'autres plastiques, mais il faudra aussi le faire en contact alimentaire. Et on va à des seuils qui vont entre 10% jusqu'à 65% en fonction du type de produit et en fonction également de la date. Il y a 2030 et ensuite 2040. Et donc en l'occurrence, si les industriels, et c'est ça qui me fait un peu peur, c'est-à-dire que si les industriels français et européens n'ont pas de gisement de plastique recyclé à incorporer, ils ne pourront pas mettre sur le marché leurs emballages. Or, aujourd'hui, la Chine, il faut quand même le rappeler, c'est une production qui est plus de deux fois celle de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 15% du plastique mondial.
On manque
la
pas
Chine,
de plastique
c'est 30%.
À collecter, à recycler. On ne les exporte plus, les déchets plastiques, depuis 2024.
Alors, effectivement, il y a des restrictions par rapport à l'OCDE.
Tout à fait. Les gisements de plastique, c'est pas comme si on avait suffisamment réduit la production pour qu'on en manque. Alors, est-ce qu'on les collecte bien? Est-ce qu'on les trie bien? Non. En France, non.
Alors, en France, non.
Par contre, c'est quand même pas.
En France, non. Et ça fait d'ailleurs, pour rebondir également, mais sur le traité, pour arriver sur quelque chose, je pense qu'il doit faire consensus entre toutes les parties aujourd'hui, auxquelles nous discutons aujourd'hui autour de la table. C'est qu'on attaque le recyclage, on critique le recyclage. Mais les vrais problèmes sur lesquels on devrait s'affairer, c'est l'enfouissement et la mise en décharge. Et c'est l'incinération aujourd'hui des déchets. Or, aujourd'hui, la France, on est quand même, et moi j'ai vu les éléments produits par la ministre de l'écologie, plus de 30% d'enfouissement des déchets, alors que l'Allemagne a arrêté, la Suisse a arrêté, la Norvège a arrêté, la Belgique, l'Autriche, les Pays-Bas ont arrêté. Et on a une part d'incinération qui augmente. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut se concentrer sur ces mauvaises gestions, on va dire mauvaise fin de vie du plastique, en Europe, mais également dans les pays en développement, afin de ne pas non plus reproduire les mêmes erreurs également.
Dorothée Moisan, votre réaction sur cette question du recyclage?
Alors déjà, écoutez, je suis très flattée parce que c'est bien la première fois que quelqu'un qui représente l'industrie du plastique dit que, enfin, devance mes arguments pour les battre en brèche d'emblée. Donc je vais quand même les exposer moi-même, mais je suis amusée, c'est vrai, pour le fait que quand Monsieur Taillefer expliquait qu'avant on mentait, pendant très longtemps on a menti, et maintenant c'est plus le cas. Alors, je vous réexplique un petit peu l'histoire quand même. Sur le recyclage, qui est comme le disait Michaela Lemeur, etc., sur un mythe. Moi, je ne savais pas si c'était un mythe ou pas. Moi, je pensais aussi que j'avais une poubelle jaune, que ça avait du sens, etc. Il se trouve qu'une journaliste américaine s'est penchée sur la question et a été interviewée des anciens de l'industrie, des lobbyistes de l'industrie ou des responsables de l'industrie du plastique aux États-Unis. Et en fait, ils ont reconnu dans un documentaire, que visiblement M. Taillefer a vu, qui s'appelle Plastic Wars, Face Caméra. Ouais, en fait, le recyclage, c'était bien une astuce qu'on a trouvée parce qu'il fallait qu'on fasse passer le plastique pour quelque chose de plus vert parce que ça commençait à se voir que c'était pas vert. Ce qui se passe, c'est que dans les années 80, aujourd'hui, on fait effectivement du plastique bashing en disant « mais c'est tout nouveau, c'est seulement, on s'éveille à l'écologie ». En fait, pas du tout. Le recyclage, il y en avait déjà dans les années 70, du côté de San Francisco, sur la côte ouest aux États-Unis, qui a toujours été un peu plus verte ou un peu plus verte rapidement que le reste des États-Unis. Et donc, ils se sont dit « le plastique s'accumulait en fait autour des villes là-bas, on savait pas faire, que faire ». de ces couches en plastique, de ces tous ces assiettes en plastique, etc., de McDo, etc., on ne savait pas qu'en faire, ça s'accumulait autour des villes. Et donc, des Américains manifestaient, en fait, pour dire, mais on arrête, en fait, ça, ce plastique, etc., c'est pas possible, c'est en train de nous inonder. On est à la fin des années 80, donc ça fait déjà un certain temps. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils disent les pétrochimistes, enfin les producteurs de plastique vierge, en l'occurrence, encore une fois, face caméra, vous pouvez retrouver les interviews si vous voulez, ils disent, ben, on voyait bien que ça commence à sentir le roussi, et qu'on n'allait plus acheter du plastique, donc il fallait qu'on trouve un truc. Et là, on s'est dit, ben oui, mais ce qu'ils font là-bas à San Francisco, c'est pas mal. Ça s'appelle le recyclage, et donc là, ils font une étude en interne, où il est écrit, ça ne marchera pas. C'est pas viable, ça marchera pas. C'est pas grave. Le but, c'est de le promouvoir. Le but, c'est de dire que ça marche pour que les gens achètent du plastique, ils voient écrit recyclable, ils se disent oh, en achetant du recyclable, je fais un geste pour la planète, tout va bien. Conclusion, on est en 1989. Le taux de recyclage du plastique aux États-Unis, c'est combien? C'est 5%. Vous ajoutez des centaines de millions de dollars plus tard de lobbying sur ces questions de recyclage. On est dans les années 2020 aux États-Unis. Quel est le pourcentage de recyclage du plastique? Entre 5 et 7%. Voilà, donc c'est pour vous dire que le recyclage du plastique, on peut en parler, effectivement, les bouteilles de PET peuvent se recycler. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le plastique est un produit toxique. Michael Hallemer l'a bien expliqué, le plastique, il est toxique à plusieurs niveaux, je vous la fais très courte. Le plastique, il est toxique, il peut être toxique lui-même en tant que plastique, c'est un polymère fait de monomères, bref, les molécules du plastique en soi peuvent être toxiques. Par exemple, le styrène, qui est un perturbateur endocrinien, présent dans le polystyrène, qui constitue, par exemple, nos pots de yaourt. Okay ? Donc ça, il peut être toxique à partir du plastique, à partir des milliers d'additifs qui sont ajoutés, pour le rendre plus joli, plus parfumé, plus rouge, etc. Sauf que ce sont, par exemple, des phtalates, des bisphénols, tous ces doux noms, les PFAS, dont on parle beaucoup en ce moment, qui se mélangent au plastique et qui, à un moment, vont se détacher du plastique pour, par exemple, encore une fois, assez rapidement, aller dans nos organismes ou dans l'environnement et avoir des impacts redoutables. Et en plus, on a ce qu'on appelle les NIAS, c'est un nom un petit peu barbare, désolé, les Non-Intentionally Added Substances, les substances non intentionnellement ajoutées. Quand on fait du plastique, on est un petit peu un petit chimiste dans sa cuisine, hein. On met de la chaleur, des solvants, etc. Et ça provoque des réactions chimiques qui peuvent faire apparaître des composants dont on n'était même pas au courant. Et des choses pas très sympas. Et en plus, on se souvient du Covid, hein, on nous dit au début du Covid, carrément, on avait aux États-Unis plastic saves lives, le plastique sauve des vies. On a juste découvert assez vite que le plastique était le matériau sur lequel le Covid restait infectieux le plus longtemps, 7 à 9 jours. Donc en fait, quand on parle de recyclage, on recycle un produit en fait toxique. Et quand on recycle un produit toxique, on a tendance à concentrer la toxicité. Et donc les produits recyclés en plastique vont être encore plus toxiques que les produits neufs en plastique. Donc, il y a un moment où il faut s'arrêter, hein, parce que c'est un cercle vicieux et ça continue vraiment trop loin. Et donc, il faut tout simplement se dire, on va changer de matériau. Et puis surtout, j'espère que ça vous allez l'aborder, on va changer de société, parce que c'est une révolution culturelle qu'il faut voir. Le plastique a ouvert
l'ère du jetable.
Et effectivement, je vous laisse la parole. Mais le plastique a ouvert vraiment une ère, enfin, l'ère de la surconsommation est très synonyme de plastique. Quand on l'étudie, on voit vraiment que c'est très, très lié. Et qu'aujourd'hui, il faut changer beaucoup plus que deux, trois petites choses.
Commençons dans l'ordre. Si on essaye de se dire que, laissons de côté la question du recyclage, on pourrait dire qu'on recycle ce qui est déjà produit, puis qu'on diminue la production, ça mettrait tout le monde d'accord. La toxicité, je pense, ne fait pas spécialement de doute. La question, c'est comment on fait pour changer de manière de vivre, changer de manière de produire, changer finalement toutes nos habitudes dans la mesure où le plastique est devenu vraiment le matériau numéro un de notre civilisation, notre culture matérielle. Est-ce que d'abord on peut essayer de parler matériaux de substitution, même avec vous Joseph Taillefé? Est-ce que on pourrait par exemple se dire le textile ne nécessite pas de plastique, on pourrait repasser, on s'est habillé pendant longtemps avec des matériaux naturels, est-ce qu'on pourrait hiérarchiser les usages du plastique?
Alors, je me permets juste par rapport au fait de dire qu'il ne fait pas de doute concernant la toxicité, le fait de dire par exemple que le polystyrène est dangereux, c'est de la désinformation. Vous avez l'ANSES, vous allez sur le site de l'ANSES, le polystyrène est reconnu comme inerte et non dangereux. Si on part du principe que le styrène, composant le polystyrène étant dangereux, donc le polystyrène étant dangereux, ben à ce moment-là le verre est composé de silice cristalline. La silice cristalline est cancérigène et ça c'est reconnu.
Mais fondamentalement, il est assez clair qu'on se retrouve avec des plastiques dans notre organisme, des microplastiques et que ça risque, je cite une l'Université de Toulouse qui vient encore de sortir une étude, de perturber les fonctions endocriniennes et de provoquer des cancers.
En l'occurrence, il n'y a pas du tout de consensus scientifique sur le sujet, mais on pourra en débattre longtemps. Mais si on parle des microplastiques,
je crois que le consensus scientifique, les
pneumatiques, les textiles.
Non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres substances toxiques. Ça veut dire qu'on a un problème avec le plastique alors qu'on l'utilise tout le temps. Je pense quand même que ça, c'est un consensus minimal. Est-ce que vous pensez qu'on peut distinguer, comme Michaël Allemeur le proposait, des marchés spécifiques, des usages où là on n'a pas de solution à court terme, et d'autres où on peut faire différemment? Est-ce qu'on peut hiérarchiser les usages du plastique?
Alors, vous avez parlé par exemple du textile. Est-ce qu'on peut remplacer par exemple les textiles synthétiques par autre chose? Bien sûr, on a du coton aujourd'hui, du lin, il y a des produits effectivement naturels, la laine effectivement qui existe. Mais il y a une étude justement, quand on parle d'études, il y a une étude que je cite dans mon livre qui s'appelle « Quand les microplastiques ne sont pas du plastique ». Et en l'occurrence, des chercheurs belges ont découvert effectivement que vous avez aujourd'hui les éléments qui sont extraits, on va dire, des textiles soi-disant entre guillemets naturels, qui ont le même impact sur la faune et la flore que les éléments synthétiques. Et qu'en l'occurrence, on en trouve même d'ailleurs plus dans l'eau et dans les océans que les textiles synthétiques qui pourtant sont produits en plus grande masse. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, tout est possible. Mais il faut quand même garder à l'esprit une chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, nous avons une population quand même de plusieurs milliards d'habitants sur la Terre. Vous avez une croissance qui est en train d'être faite, notamment dans les pays en développement. C'est-à-dire, on dit que les États-Unis ne veulent pas arrêter la production, mais vous avez aussi l'Inde, le Brésil, la Russie, la Chine, et en fait la croissance et la superproduction de plastique pour les années à venir, vous savez, les fameux 2 à 3 fois plus de production, c'est là-bas que ça va se passer. C'est pas en Europe ou c'est même pas en France. Nous, on va dire, notre inquiétude, c'est que les industriels français ne diminuent pas. On est passé quand même de 4000 entreprises en France il y a à peu près une vingtaine d'années dans la plasturgie à 3000. Ça représente encore 120 000 salariés, et à l'échelle de l'Union européenne, c'est 50 000 entreprises, 1 500 000. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, les mesures qui doivent être prises, et on ne dit pas qu'il ne doit pas en avoir. Il y a des substances qui doivent être interdites. Il y a des produits qui doivent être interdits. Il y a la gestion des déchets qui doit être améliorée. Il y a un ensemble de paramètres à mettre en place, mais sans léser, on va dire aujourd'hui, les industriels européens qui s'appliquent les normes les plus poussées. Et comme l'a rappelé Madame Lemeur tout à l'heure, c'est effectivement, vous avez la réglementation sur le plastique recyclé qui est la plus poussée au niveau mondial et qui est plus poussée d'ailleurs que le carton au contact alimentaire. Il faut le savoir.
Non, mais je pense que tout le monde peut accepter et comprendre des inquiétudes des industriels et des salariés de l'industrie plastique et la question des emplois. Et il est évident que si on interdit la production de plastique en Europe pour importer des plastiques encore plus toxiques et moins réglementés à l'extérieur, personne ne sera gagnant, ni nos emplois, ni notre santé. Pour autant, je tiens quand même à cette idée. Alors, d'une part, je pense que ça s'organise, et c'est ce que font les négociations internationales, et je tiens à cette idée de substitution progressive, synchronisée entre les différents pays. Michaela Lemeur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous semble possible, le processus de substitution progressive?
Alors, je pense qu'effectivement, par exemple, sur les emballages, moi j'ai une petite dent contre les emballages dont je parlais tout à l'heure, qui représente plus d'un gros tiers de la production mondiale de plastique, et qui parfois arrive à des degrés de raffinement, si je peux me permettre ce terme, de complexité plutôt, quand on a par exemple, prenons un produit comme le Capri Sun, qu'on retrouve énormément dans les collectes de déchets sauvages.
Donc c'est une boisson...
Une espèce de jus de fruit qui n'est pas vraiment un jus de fruit, qui est donc très sucré et qui mélange du plastique, de l'aluminium, des colorants, des additifs, tout ce qui est le cocktail terrible et qui ne se dégrade pas et donc on retrouve très facilement. C'est brillant en plus, on le voit de loin quand on fait des collectes de déchets dans les rivières ou en bord de plage. Là, on a un degré de sophistication de l'emballage qui est à usage unique et qui finit dans la nature et qui devrait être de toute façon régulé. Et c'est une invention allemande, pour ne pas incriminer d'autres personnes ailleurs qu'en Europe. Donc je pense que là, on a des choses quand même à travailler. Et quand on parle par exemple du papier et du carton, des sacs en carton servent à plein de sortes de choses, et c'est juste du carton. Il n'y a rien d'autre, parfois il y a d'autres choses, mais on peut avoir juste des papiers en carton, des sacs en carton interchangeables pour tous les rayons de l'ordinaire, et éviter d'attribuer des prix, parce que c'est ça que fait aussi l'industrie du plastique, d'attribuer des prix du meilleur emballage, de l'emballage le plus innovant et donc en fait le plus complexe à certains produits. Ça devrait être réglementé. Et moi, je voudrais dire une chose sur cette idée de qu'est-ce qui finit dans la nature. Je voudrais dire deux choses en réalité. J'avais noté la question de ce qui arrive avec les plastiques dans la nature, c'est aussi cette nouvelle entité, puisque les plastiques sont des objets qui sont produits par les humains, qui n'existent pas à l'état de nature, on pourrait dire, et que la nature ne sait pas gérer. Et donc le papier, le carton, le verre, etc., on est sur d'autres choses qui s'intègrent beaucoup mieux au grand cycle naturel. Une chose. Et deuxième chose, En 2022, il y a un comité scientifique sous le patronage de l'UNESCO qui a publié une déclaration qui s'appelle la déclaration de Lanzarote et qui visait à accompagner les négociations sur ce fameux traité et qui disait une phrase qui, moi, me semble, doit être vraiment redite. Le lobbying et la corruption sont d'importants facteurs de développement de la pollution plastique et ce traité international doit inclure, je cite, des mesures pour combattre le lobbying industriel et la corruption. Et ça, je pense que c'est vraiment un des nœuds sur lesquels on est bloqué. C'est aussi ce pouvoir du monde industriel et ce chantage à l'emploi, si on peut le dire, même si je sais très bien qu'il y a des enjeux énormes économiquement parlant, mais il faut accompagner les entreprises à cette réduction parce qu'elles ne le feront pas d'elles-mêmes.
Dorothée Moisan, qu'est-ce que vous pensez d'un calendrier, d'une manière d'organiser la substitution et le changement de mentalité dont vous vouliez nous parler ?
Ben déjà, moi, je pense que donc effectivement, c'est une. Alors, juste pour répondre à Monsieur Taillefer, puisque je ne suis pas face à lui, mais donc le polystyrène contient du styrène, qui est donc un cancérigène probable et reprotoxique, et on sait qu'aujourd'hui, le polystyrène peut relarguer du styrène. Par ailleurs, il a été prouvé en 1991, notamment par Anna Soto, que elle avait des tubes à essai en polystyrène, parce que le polystyrène, c'est pas que petit bout de blanche. Et de ce polystyrène, ces tubes à essai, les cellules qui étaient dans ces tubes à essai proliféraient très bizarrement. Enfin, c'était très compliqué, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Eh bien, elle a découvert que c'est ces tubes en polystyrène qui relarguaient à l'intérieur du tube à essai, et donc du contenu, du TNPP, c'était un autre produit chimique, en fait, un antioxydant, le TNPP qui est un produit, un perturbateur endocrinien, qui s'était créé, les fameux niasses dont je vous parle, pendant la fabrication du tube à essai en polystyrène qui était relargué à l'intérieur. Donc en fait, encore une fois, le plastique, on sait quand on le fait, mais on ne sait pas comment il évolue derrière. On croit savoir, mais en fait, on ne sait pas. Donc là,
Et du point de vue de la substitution.
Voilà. Donc ça, c'est un point assez essentiel. Ensuite, sur la substitution, en fait, c'est une révolution culturelle comme plein d'autres. C'est pas la plus facile, mais tout à fait possible. Moi, je pense notamment au tabac. Alors moi, je vous dis, j'ai eu 50 ans, il n'y a pas longtemps, là. Et quand j'étais jeune et que je prenais le train, et ben, c'était quand même assez invivable parce qu'il y avait des wagons fumeurs et des wagons non-fumeurs. Alors on avait du mal à voir la différence, vous voyez, parce que les portes qui s'ouvraient entre les wagons n'étaient pas très hermétiques. Et donc, c'était un enfer pour moi, étant gamine, de prendre le train. Et de même que les restaurants. Hein, les restaurants, aujourd'hui, ont des espaces fumeurs à l'extérieur, mais bon. Et en fait, on aurait demandé à quelqu'un, il y a 40 ans, est-ce que vous pensez qu'on peut réduire,
le tabac ne prend pas du tout la même place, etc. Je comprends l'idée de changement d'image.
Ah si, il y a
pas,
mais
on ne sert pas quotidiennement du tabac.
C'est 100 millions de vies. Moi, c'est un plan. Et pour moi, c'est un point essentiel comme exemple parce que c'est 100 millions de vies fauchées au XXe siècle. Et en fait, on a voilà. Et aujourd'hui, on change de prisme. Donc ça, c'est un point important. Deuxième exemple qui me semble important. Il faut que ce soit accompagné par l'État, par les autorités, en fait, le changement. Ce qui s'est passé, en l'occurrence, pour le tabac. Ce qui s'est passé aussi avec le protocole de Montréal, puisqu'on a parlé longtemps du trou dans la couche d'ozone. Enfin, moi, pareil, enfant, ça me faisait peur. Et en fait, on est arrivé à une solution. En tout cas, on a réussi à reconstituer quasiment entièrement ce fameux trou dans la couche d'ozone, parce que on a eu un consensus multilatéral, en 1987, avec le protocole de Montréal, qui s'est basé sur un plafonnement de la production de ces gaz fluorés qui entraînaient la disparition de la couche d'ozone. Donc moi, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le plastique est très lié à la surconsommation et au jetable, comme le disait Michael Hallemeur qui parlait des emballages, qui sont le plastique à usage unique finalement numéro un. Et donc, c'est pas quand on va dans les supermarchés aujourd'hui, on a 95% des emballages qui sont en plastique. Donc effectivement, il faut qu'on repense tout ça, si on prend que l'emballage, qui est une grosse partie du problème.
Donc on comprend qu'il y a...
quand on avait
Dorothée Moisan, pardon.
Quand Brune Poirson a décidé de mettre en 2040 la fin du plastique à usage unique en France, on a trouvé ça très loin. Sauf que changer les emballages des supermarchés dans les 15 ans qui viennent pour ne plus avoir de plastique à usage unique, c'est un vrai défi. Et en fait, notamment le vrac, enfin, il y a plein de choses à faire qui commencent à se développer. La consigne, Coca-Cola, qui est le numéro un du plastique, de l'emballage plastique en bouteille qu'on trouve partout, c'était le numéro un de la consigne il y a fort longtemps.
Dorothée Moisan, on a compris qu'il y a d'abord des secteurs où on peut vraiment travailler plus l'emballage, on peut faire du vrac, des textiles en plus, et surtout, et c'est peut-être le seul consensus qu'on aura trouvé, désolé Joseph Taillefer, je ne peux pas vous redonner la parole, l'émission arrive à sa fin, mais peut-être le consensus pourrait porter sur la nécessité d'un bon accompagnement des pouvoirs publics, et ce, à l'échelle internationale. Donc on suivra le sommet qui vient de débuter aujourd'hui. Un grand merci à tous les trois. Joseph Taillefer, je rappelle votre ouvrage, Plastic Bashing, l'intox. Dorothée Moisan, vous avez fait paraître les plastiqueurs. Et enfin, Michaël Hallemeur, le mythe du recyclage. Toutes les références sont à retrouver sur la page de l'émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à toute l'équipe. Question du soir au mois d'août, c'est Jules Crétois, Louise Cognard, Victoria Géraud-Velmont, Alice Chavaran et Maud Diaïch. Fan Montet à la réalisation, Alexandre Dang à la technique à Paris et Fabien Bourlier à Quimper. On se retrouve demain pour de nouvelles questions du soir. En attendant, restez à l'écoute sur France Culture.